Il y a 8h25 minutes. L'invité de la rédaction avec Souhil Alachmi qui reçoit ce matin Madame la Présidente du Croissant Rouge algérien, Madame Saïda Ben Habiles. Alors, mesdames, bonjour, c'est
bonjour.
À vous.
Bonjour, Madame Saïda Ben Habiles, bonjour.
Bonjour.
Alors, le rapatriement des ressortissants nigériens, l'opération débute incessamment. Alors, Madame Ben Habiles, tout se déroule dans de bonnes conditions du point de vue de leur prise en charge pour leur rapatriement dans leur pays d'origine?
Écoutez, avant d'entamer ce sujet, il est bon de situer ce problème dans son contexte. Moi, je ne cesse de rappeler que l'Algérie est en train de gérer les conséquences des erreurs stratégiques de certaines grandes puissances qui ont bombardé la Libye à travers l'OTAN. L'Algérie a été très clairvoyante, elle a prévu tout ce qui se passe actuellement et c'est pour ça qu'elle n'a pas soutenu cette démarche. Donc aujourd'hui, l'Algérie, à travers le Croissant Rouge, assume ses responsabilités humaines dans le cadre humanitaire et effectivement, ces populations très vulnérables sont exposées à tous les dangers et sur demande du gouvernement du Niger, l'Algérie a répondu à cette demande pour procéder au rapatriement dans des conditions le plus confortable possible et les plus humaines possibles de ces ressortissants nigériens.
Alors cette mesure a été décidée de concert avec les autorités nigériennes, c'est ce que vous indiquez à l'instant. Donc ils n'ont nullement été rapatriés de force et il ne s'agit pas aussi d'expulsion.
Jamais, c'est un retour volontaire sur demande du gouvernement. Là je vais vous lire un petit passage du communiqué du gouvernement nigérien daté du 27 novembre 2014 et signé par le secrétaire général du gouvernement, M. Gandou Zakara. Le passage qui est très important, le déplacement de ces populations très vulnérables organisées dans le cadre des réseaux criminels opérant à la fois au Niger et en Algérie par des Nigériens se fait dans des conditions périlleuses, occasionnant des pertes en vie humaine par le fait de la soif notamment. Ces gens ont été pris en charge par des groupes criminels comme le cite le gouvernement nigérien et partant de là, le gouvernement nigérien a décidé de mettre fin aux souffrances et à l'atteinte à la dignité de ses concitoyens, de ses ressortissants. Et l'Algérie a mis toutes les conditions nécessaires, a dégagé tous les moyens nécessaires, mis à la disposition du Croissant Rouge pour que cette opération se fasse dans un cadre purement humanitaire. C'est loin d'être une décision politique ou une expulsion.
Mais avant leur rapatriement, ils ont été ou ils sont logés dans des centres d'accueil avant d'être acheminés vers Tamanrasset, plus exactement à Tinzawatine pour rejoindre leur pays. Alors, vous avez à travers le territoire 48 centres d'accueil.
Non, nous avons 56 centres à travers 40 wilayas. Donc, c'est des centres où se trouvent toutes les commodités. Ce n'est pas des camps de toile. Et le dernier centre où ils vont se retrouver, c'est Tamanrasset, où il y a plus d'une centaine de chalets qui sont en voie de réalisation. Il y a une cinquantaine qui sont déjà prêtes. Il y a des climatiseurs pour le chauffage, il y a des lits, il y a des matelas, des draps, des couvertures. Il y aura dans les autres, à travers tout le territoire, à travers les 40 wilayas, à travers les 56 centres, ces gens, en arrivant au centre d'accueil, c'est des centres d'accueil où il y aura une équipe médicale du ministère de la Santé et renforcée par les médecins de la protection civile. Il y aura la visite médicale, tous les soins nécessaires. En cas d'hospitalisation, si le malade est très malade et nécessite une hospitalisation, il sera hospitalisé. Les femmes enceintes qui ne peuvent pas supporter le voyage seront transférées à Tamanrasset par avion. Dans ces centres, ils auront des trousseaux, des vêtements, ils seront alimentés. Et puis, le transport vers Taman Rasset se fera dans des cars confortables comme les cars utilisés par nos usagers.
Mais est-ce qu'on a le nombre approximatif de ces personnes qui vont rejoindre leur territoire?
Je vous dis...
Certains parlent de 14 000, d'autres 13 000. On va même jusqu'à 17 000. C'est vrai?
Moi, je vous dis franchement, on n'a jamais pu avoir un nombre pour la simple raison que ces populations de culture nomade, elles se déplacent tout le temps. On n'a jamais pu les mettre dans un centre permanent et on n'a pas pu avoir des statistiques. Le Croissant Rouge a toujours fait face à sa mission, à ses responsabilités et c'est nous qui allons vers ces gens-là. Comme tout le monde l'a vu, ils sont dans des gares routières, dans les jardins publics. Maintenant, il fait chaud, il fait froid. C'est les intempéries, c'est le mauvais temps. Donc, il est temps de mettre fin aux souffrances de ces ressortissants.
Mais justement, par rapport à ces ressortissants, une fois dans leur territoire, il y aura aussi d'autres mesures d'accompagnement, puisque Mme Benhabiles, vous êtes en train de lancer une campagne de sensibilisation auprès de certains partenaires européens, vos partenaires, pour assurer des financements de micro-projets à ces ressortissants nigériens, afin de les aider à se stabiliser dans leur pays. C'est la campagne
effectivement,
que vous menez actuellement.
C'est pas actuellement, depuis le début, depuis mon installation à la tête du Croissant Rouge algérien, nos partenaires, que ce soit les agences onusiennes ou les institutions humanitaires internationales, ils ont fait pression sur nous en disant le flux migratoire important en Algérie, certains parlent de vouloir nous aider. Alors la réponse du CRA a été très simple, en disant l'Algérie a les moyens de les prendre en charge sur le plan santé, sur le plan alimentation, sur le plan hébergement, tout, transport, rapatriement. Tout ce que nous demandons, c'est d'aider ces gens-là à se fixer chez eux à travers des micro-projets. Et là, entre en jeu le rôle de ces agences onusiennes, de ces partenaires européens qui nous offrent leurs services. Donc, il ne suffit pas de rapatrier ces gens-là. Il faut s'attaquer à la source du mal. Pourquoi ils ont fui leur pays ? C'est pour des raisons d'ordre économique. Bon, le Niger, heureusement, il n'a plus de problèmes sécuritaires. Mais sur le plan économique, il faudrait aider ces gens-là à se fixer, à se stabiliser par des micro-projets de développement.
Justement, vous parlez de micro-projets de développement. De quel type, madame?
Écoutez, il faut répondre,
fixer la population.
Il faut répondre aux besoins de ces populations. C'est pour ça que nous avons déjà préparé une fiche de renseignement des bénéficiaires de micro-projets de développement. Ces gens-là vont être rassemblés dans les centres d'accueil en Algérie. Et nous avons fait un groupe spécial de bénévoles qui va se rapprocher d'eux en leur demandant quel genre de projet ils veulent. Certains veulent l'élevage, d'autres des forages d'eau, agriculture. Et là, on va répondre. Donc la fiche, en plus du nom, du prénom, la tribu, la situation de famille, etc. Évaluation du projet en besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire comme projet? Le lieu d'implantation du projet et l'impact que va avoir ce projet sur la population. Là, il faut répondre comme on a fait. On a une expérience en Algérie. Et surtout, moi, à travers le mouvement de solidarité avec la famille rurale, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier. Et heureusement, en Algérie, il y a des mesures prises, il y a des instruments de l'État à travers l'ANSEJ, etc. Et à travers les PPDRI, les programmes de proximité de développement rural intégré, on a répondu aux besoins des populations. Là, c'est pareil. On veut répondre aux besoins de ces ressortissants.
Mais est-ce que vous allez financer ces projets? Est-ce que vous avez
non,
des financements nécessaires?
Non, c'est pas nous qui
ce micro-projet,
non, c'est pas nous qui finançons. Il faudrait que ça soit clair. Le CRA joue le rôle de catalyseur. C'est-à-dire, l'idée vient de nous, l'initiative vient de nous. Nous, on va sensibiliser, on va identifier. Et nos partenaires, bon, je ne voudrais pas citer le pays, mais déjà, on a eu un accord de principe par un pays européen. Son ambassadeur a pris contact avec moi. Et là, on est en train de mettre sur pied la démarche comment réconcrétiser. Donc, il y aura ces partenaires, que ce soit, ça peut être gouvernementaux ou agences onusiennes ou Fédération internationale des croissants rouges ou bien le comité international de la Croix-Rouge. Ces gens-là ont des fonds de financement pour de tels projets. Ce sont eux qui vont financer. Il y a la Croix-Rouge du Niger qui est partenaire. Il y a les pouvoirs publics nigériens, le gouvernement nigérien qui sera... la partie qui finance, le pays qui finance, et le Croissant Rouge algérien va accompagner ces ressortissants, ces bénéficiaires.
Madame Saïda Ben Habiles, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites minutes pour la deuxième partie. A tout de suite.
Et sans plus tarder, c'est la suite de l'invité de la rédaction, la deuxième partie que nous entamons toujours avec Souhil El Hachmi à 8h38. Souhil El Hachmi qui reçoit la présidente du Croissant Rouge algérien, Madame Saïda Ben Habiles.
Alors beaucoup de questions pour cette deuxième partie, Madame Saïda Ben Habiles. Moi, je voudrais revenir un peu sur les ressortissants nigériens. Est-ce qu'ils ont tous accepté de retourner dans leur pays ?
Oui, ils ont tous accepté pour la simple raison que les 99% sont des gens vulnérables. Des femmes et des enfants qui ont été induites en erreur, qui ont été escroquées par, comme l'a déclaré le gouvernement nigérien, par des réseaux criminels. Et ils pensent exactement des passeurs, des gens. Les gens ont vendu tous leurs biens, on les a délestés de toutes leurs économies. Certains ont laissé leur vie, sont morts en cours de route. Et là, c'est le témoignage du gouvernement du Niger. Donc, ces femmes. Et ses enfants, ses familles n'aspirent qu'à une chose, c'est retourner chez eux. Retourner chez eux, surtout, ils ont trouvé quand même un partenaire, un pays frère, l'Algérie, qui répond à leur appel en respectant leur dignité.
Mais au niveau de vos centres d'accueil répartis à travers le territoire national, combien sont-ils pris en charge par le Croissant Rouge aujourd'hui?
Bah, écoutez, ils sont tous pris en charge par le
Croissant.
Mais on n'a pas, ils n'ont pas encore. Vous savez, certains, il y a certains qui ont rejoint, par exemple, à Ouelgla, à Tougourte, nous avons des centres. Mais les centres sont ouverts. Comme je vous le disais tout à l'heure, durant tout l'été, on a tout fait pour les faire venir dans ces centres. On a organisé même des colonies de vacances. On leur a dit pas pour vos enfants uniquement, pour toute la famille. Eh bien, personne n'a rejoint. Les gens sont de culture nomade. Et puis, il faut avouer une chose, la mendicité rapporte beaucoup en Algérie. Les Algériens, même les partenaires étrangers nous l'ont dit, ils nous ont dit, écoutez, les Algériens sont généreux. Et donc, ça a été un peu, et ce qui a un peu aussi choqué le gouvernement du Niger, voir ses compatriotes mendier. Les Nigériens sont fiers, comme tous les Africains. Et donc, c'est ça qui a poussé le gouvernement du Niger à lancer cet appel au secours à l'Algérie pour le rapatriement de ses compatriotes.
Mais beaucoup de ces ressortissants entraient illégalement en Algérie. L'Algérie ne représente pour eux qu'un pays de transit pour aller vers l'Europe aussi.
Non, au début. Au début, maintenant, avec toutes les difficultés économiques. En Europe, ils ont vu comment sont traités les gens les personnes dans leur situation. On les met dans des centres enfermés, entourés de fils barbelés, et c'est des prisons qui ne disent pas leur nom. En Algérie, ils ont trouvé une autre forme d'accueil, un accueil plus humain et une générosité plus populaire.
Mais comment limiter un peu ces flux de ressortissants africains vers l'Algérie aujourd'hui?
Pas vers l'Algérie. Parce que
nous avons aussi les Maliens parallèlement pour les considérations d'insécurité, d'autres aussi ressortissants étrangers.
Écoutez, pour limiter, moi, d'abord, il y a deux conditions. La paix, la sécurité et le développement. Là, il faudrait que la communauté internationale prennent conscience. Il faudrait que tous ces espaces, ces grands espaces humanitaires, tels que le CICR, tels que la Fédération internationale des Croix et Croissants Rouges, pèsent de tout leur poids pour qu'on mette fin à ces situations à travers le développement et à travers la paix.
Vous préparez actuellement un mémorandum sur l'opération que vous allez rendre publique prochainement?
C'est un mémorandum, pas pour l'opération, pour comment encourager le financement des micro-projets. C'est notre petite contribution, nous, Croissant Rouge Algériens, à la réussite de cette opération. Comment fixer ces populations? Comment les stabiliser? Il y a bien sûr d'autres mesures. Entre autres, on n'a pas voulu rester les bras croisés. On a pris cette initiative qui commence à avoir un écho favorable et on poursuit notre petit bout de chemin. On a écrit à la Fédération internationale des Croix et Croissants Rouges. On a saisi le CICR. On a fait appel, même à l'occasion, quand on rencontre, il y a des ambassadeurs accrédités à Alger occidentaux qui ont fait des visites de courtoisie au siège du Croissant Rouge. On leur a fait part de notre préoccupation et on commence à avoir un écho favorable.
Alors, autre question, Madame Benhabiles, est-ce qu'une opération similaire pourrait éventuellement et prochainement concerner aussi les ressortissants maliens?
Les Maliens, on a beaucoup d'espoir. Puisque
ils sont nombreux
ils sont plus nombreux que les Nigériens. Pour le Malien, on a un espoir, une lumière d'espoir suite à l'initiative dont on est fier, l'initiative algérienne de réconciliation entre toutes les parties, entre tous les belligérants maliens. C'est une démarche qui a l'air d'aboutir. On voit au fil des jours que les entretiens sont fructueux et prometteurs. Donc, il y a cet aspect sécuritaire qui nous rassure. Et dès que les conditions sécuritaires seront remplies, je pense que le gouvernement du Mali agira de la même sorte que le gouvernement du Niger, et l'Algérie répondra favorablement à cet appel aussi.
Mais en attendant, qu'est-il fait pour ces ressortissants maliens, puisqu'on a le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des Collectivités Locales, Tayeb El Aïs, qui avait affirmé jeudi dernier que les usages et traditions de l'Algérie ne lui permettent pas de rapatrier ces personnes par la force.
Effectivement.
Donc,
nous les accueillons. On l'a toujours fait.
Qu'est-il fait pour eux en attendant puisque nous sommes à l'approche. Nous sommes en plein hiver actuellement.
Écoutez, on l'a fait depuis.
Ils sont dans les rues.
On l'a fait depuis leur arrivée en Algérie. Eux ne veulent pas rejoindre des centres. C'est nous qui allons vers eux. Nous installons des tentes. Nous leur servons à manger. Nous les soignons. Nous évacuons dans les hôpitaux. Pour la scolarisation, il y a eu quelques scolarisations parce qu'il y a un problème de programme et de langue. Et les Maliens et d'autres nationalités africaines sont anglophones ou francophones. C'est plus facile pour nos frères et sœurs, nos enfants de Syrie ou de la Palestine. Donc, pour le moment, on va essayer de les encourager. On ne veut pas les obliger à rejoindre les centres. Nos centres ne sont pas des prisons. Nos centres, c'est des centres d'accueil. Donc, vous savez, ils viennent, ils se reposent, ils se changent, ils se restaurent et ils reprennent la route.
Mais c'est l'hiver,
donc,
ils sont
maintenant,
dans les rues,
c'est
en plein froid.
Ben, on va leur dire, nous, le Croissant Rouge Algérien...
Est-ce qu'il n'est pas possible de les regrouper dans les centres d'accueil?
Ben, nous, on est prêts.
La
question qu'il faut poser, est-ce qu'ils acceptent de rejoindre les centres d'accueil?
Mais est-ce que
c'est
vous
là
essayez
où
de
réside.
Les convaincre?
Exactement, on a passé des mois à les sensibiliser. Je vous dis, on a profité de l'été, on s'est dit peut-être qu'ils vont être tentés des colonies de vacances pour toutes les familles. Personne n'a voulu rejoindre.
Mais là, ils sont partout dans les rues en train de
mendier
aussi.
Oui, ils préfèrent la mendicité. Je suis désolée de le dire. La mendicité est interdite pour les Algériens, mais on ferme les yeux pour eux et puis ça rapporte beaucoup pour eux. Maintenant, je pense qu'il est temps d'essayer de les inciter davantage à rejoindre les centres pour être protégés de tous les fléaux. Il n'y a pas que la pluie et le mauvais temps, il y a plein de fléaux.
Et pour les Syriens, certains ont accepté de retourner chez eux.
Ah oui,
il y a eu des
opérations. Et l'opération se poursuit.
Combien sont repartis ?
Il y a plus d'une vingtaine. On a médiatisé une seule opération pour faire passer le message, mais on est en train de le faire dans la discrétion. Les Syriens, nous avons des centres, les Syriens rejoignent. Vous savez, on a moins de problèmes de réinsertion pour les Syriens que pour les subsahariens. Pour plusieurs raisons, c'est surtout la raison principale, raison culturelle. Il y a un problème de, il y a, bon, les Syriens et, s'adaptent facilement, question de langue, question de culture, et puis il y a une certaine classe moyenne qui est venue en Algérie. Donc, ils deviennent actionnaires dans des commerces avec des Algériens, ils essayent de s'adapter. Les enfants sont scolarisés. Je voudrais rappeler ici l'effort de l'Algérie pour préserver le savoir et encourager l'enseignement. Vous savez que pour l'inscription, la scolarisation des enfants de ces personnes qui viennent chez nous, on n'exige pas de certificat de scolarité. On exige une déclaration sur l'honneur du tuteur attestant le niveau de scolarité. Et avec cette attestation...
Des mesures facilitées avec le ministère de l'Éducation nationale.
Et même l'enseignement supérieur.
Mais est-ce que les centres d'accueil vous avez recèlent toutes les commodités pour permettre peut-être l'hébergement et la fixation de ces populations, notamment en ces périodes de froid,
nous avons
dans les rues partout.
Nous avons, il y a toutes les commodités, les sanitaires, les douches, un coin santé, un lit chaud, un repas chaud, un lit, une couverture, un confort moral, un contact humain. Nos bénévoles sont disponibles 24 sur 24. Et je vous assure qu'ils travaillent, les bénévoles travaillent. Je voudrais ouvrir une parenthèse, rendre hommage à tous ces bénévoles du Croissant Rouge algérien à travers tout le territoire national.
Alors on l'a dit au tout début de cette émission, le rapatriement de ces ressortissants nigériens à l'opération débute incessamment, ce soir, demain, après-demain.
Écoutez, tout dépend. Vous savez qu'il y a le vent de sable
actuellement,
côté de Tindou, à l'extrême sud, il y a des routes qui sont coupées. On ne voudrait pas, on voudrait éviter tous les incidents possibles. On voudrait que leur voyage se fasse dans les meilleures conditions. Je rappelle, en ce qui concerne des personnes âgées ou des femmes enceintes qui ne peuvent pas, les personnes malades, qui ne peuvent pas supporter
le
voyage par route, ils seront acheminés par avion.
Madame Saïda Benhabiles, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée.